Bonjour à tous et bienvenue au Loisirs culturels Le Balado, une présentation du réseau des unités régionales de loisirs et sports du Québec. Mon nom est Frédéric Ross et j'animerai la discussion aujourd'hui qui portera sur l'implication bénévole. Avec moi aujourd'hui, nous avons Yvan Pion, bénévole impliqué dans le milieu artistique à Saint-Hyacinthe, Catherine Montour, directrice du Centre d'action bénévole de la Ville de Québec, François Sylvain, bénévole gagnant du prix Dollard Morin 2022 pour le Centre du Québec, et Louis Harvey, bénévole gagnant de l'hommage Bénévolat Québec 2022 pour la région de l'Outaouais. Le bénévolat est une richesse première d'une vie communautaire en bonne santé. De la gouvernance au défi de la gestion du bénévole, nous aborderons le bénévole sous plusieurs angles. Mais d'abord et avant tout, qui sont ces bénévoles qui s'investissent jour après jour dans le monde du loisir? Voici ce qu'en pensent mes invités.
Aussitôt que j'ai vu le questionnaire, Frédéric, je me suis dit, à la base, moi, en tant qu'artiste de la scène, je me dis, tous les artistes sont en partant des bénévoles. Parce qu'on ne peut pas faire ça pour l'argent, c'est impossible, compte tenu de la structure du marché. Donc, à la base, chaque artiste est un bénévole qui partage son talent, qui donne de son temps. On peut le faire dans 10 000 occasions. La première fois où j'ai fait ça, Frédéric, j'avais 13 ans, c'était en 1975, secondaire 1, le professeur de sciences religieuses identifie des élèves qui ont du talent dans la classe. Et il nous demande si on va aller chanter à l'Hôtel Dieu pour les gens qui sont là. Moi, je dis oui tout de suite. Fait que moi, ça a commencé comme ça. Fait que, mais quand je pense à des bénévoles, aujourd'hui, je pense aussi à l'époque où j'étais au Centre des arts de Saint-Hyacinthe, le Centre Juliette Lassonde. J'étais là pendant 15 ans comme membre du conseil d'administration. Et j'ai tenté d'organiser à deux reprises ce qui s'est appelé finalement avec succès l'Artichaut. L'Artichaut, c'était un spectacle d'automne qui souhaitait mettre en valeur tous les organismes culturels de la photographie à la peinture, à la danse, au chant, donc les chorales, les troupes de danse, tout ça. Et donc là, j'ai pu prendre conscience qu'il y avait des membres administrateurs qui étaient des artistes, mais qui étaient membres du conseil d'administration de chacun de ces petits groupes culturels-là. Je dis petit, mais ce n'est pas du tout péjoratif, là. Bon, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être bénévoles en matière de costume, en matière de maquillage, en matière de soutien technique, etc., en gestion de stationnement, si on décide de faire un spectacle dans une salle en particulier là, qui n'est pas nécessairement un équipement de la ville. Donc, c'est relativement large, mais moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que chaque artiste est un bénévole, parce qu'on ne peut pas s'attendre à devenir riche, sauf intérieurement avec ça, en tout cas après ma barre.
Catherine, toi, de ton côté, le portrait d'un bénévole?
En fait, j'ai envie de faire du pouce sur ce qu'Yvan est en train d'expliquer avec la vision, là, Centre d'action bénévole, où nous, on recrute des bénévoles qui veulent s'impliquer dans la communauté, puis on les redirige dans les organismes communautaires. Mais ça peut être en sport, en loisirs, ça peut être en social beaucoup. Donc, la plupart de nos bénévoles, ou en tout cas ceux qui appliquent, veulent plus faire, plus au niveau social, un peu plus d'entraide, je dirais. Cependant, quand c'est au niveau sportif, loisir, culturel, on voit vraiment une tangente où la personne connaît le milieu, pratique lui-même, soit la culture ou le sport, fait partie, il y a quelqu'un de sa famille. Donc, il y a vraiment un noyau très serré. Donc, c'est ce que nous, on a observé, que quand on a, par exemple, un événement de soccer à couvrir et trouver 60 bénévoles, les gens qui vont s'impliquer, c'est des gens qui sont déjà dans le milieu, qui connaissent déjà.
Qui souhaitent redonner.
Donc, c'est la particularité qu'on a trouvée. Puis, on se posait des questions, justement, sur comment aller chercher d'autres gens dans ce genre d'événement-là. Peut-être que moi, je ne pratique pas le soccer, mais j'ai peut-être des qualités, comme vous mentionnez, au niveau de l'administration, de la gestion, puis que je pourrais être interpellée, puis aider, puis finalement dire « Oh wow, finalement, j'adore ce genre de bénévolat-là aussi ». Il y a comme, en fait, il y a vraiment des belles questions à se poser cet après-midi, comment aller chercher ces gens-là.
Louis, toi, de ton côté?
Bien, moi, je vais revenir 35 ans en arrière. Si on regarde, quand je suis arrivé dans la région du Pontiac, qui étaient les bénévoles? C'était des gens impliqués dans leur communauté, des gens qui étaient spécialisés dans une activité. C'était souvent des personnes retraitées. Il y avait beaucoup plus de jeunesse à ce moment-là. Aujourd'hui, ben, c'est quoi le portrait type d'un bénévole? Initialement, c'est quelqu'un qui est passionné. Il faut qu'il y ait la passion qui anime la personne. Puis c'est aussi, ça doit être aussi une espèce de personne qui est capable de mener des affaires, qui est capable d'aller chercher des personnes ressources, qui est capable de lier tout ça ensemble pour créer un événement. Fait que c'est ça qui définit pas mal la personne bénévole dans la région où je demeure.
Puis est-ce que, j'ai entendu tantôt Yvan mentionner par rapport à la compétence qu'un bénévole doit avoir, est-ce qu'un bénévole se doit d'avoir une compétence? Si on, est-ce qu'il y a quelque chose dans le loisir culturel qui fait en sorte que le bénévole doit avoir cette compétence-là?
Bien, pas nécessairement, mais c'est que des fois, tu n'as pas beaucoup de temps pour réaliser tes événements. Puis normalement, le bénévole qui organise des événements doit s'entourer de compétences pour que ça fonctionne, puis pour produire des événements de qualité. Alors, il y a comme une sélection que tu fais aussi dans tes bénévoles, parce que tu peux avoir 50 bénévoles puis n'avoir besoin juste d'un. Donc, il faut vraiment d'être entouré, puis c'est un peu comme, comme un spectacle. Quand tu montes un spectacle, tu vas chercher des gens qui ont une affinité avec... Le bénévole va chercher des personnes avec qui il a une affinité pour réaliser un événement culturel.
C'est super pertinent, puis en fait, ça va compléter là, ce qui a été mentionné. Ce qu'on observe, c'est quand il y a une catastrophe, je vais faire vraiment un exemple très grossier, il y a une inondation, tout le monde va se mettre à faire des sacs de sable.
Ouais.
Il va toujours avoir des bénévoles pour remplir des sacs de sable. OK? Quand j'organise un événement, je dois m'assurer d'avoir qu'est-ce que j'ai de besoin pour faire mon événement. Parce qu'il va en avoir des gens pour remplir des sacs de sable, mais c'est peut-être pas le besoin que j'ai actuellement. Plus on avance dans, je trouve, dans les années, plus on parle de professionnalisation du bénévole, et il est là. Donc, si je parle à des organisations aujourd'hui, je leur dirais, ben vous voulez des bénévoles? Peut-être que dans votre tête, c'est un coach, peut-être que c'est un organisateur de scène, un metteur en scène, je sais pas c'est quoi son titre que vous avez en tête, mais peut-être que la personne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire non plus. Mm-hmm. Donc, faut peut-être plus parler par compétences ou les qualités recherchées ou peut-être les tâches que la personne va effectuer, puis c'est là qu'on va recruter. Plus on est précis, ça, je l'ai observé dans les deux dernières années depuis la pandémie, plus on est précis dans nos besoins, plus on a de gens qui adhèrent, plus on a de bénévoles qui lèvent la main. Je dis, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la comptabilité une fois par mois, pour faire tel type de choses, telle tâche. 10 non. Ben, voyons donc.
Ah, cibler davantage.
Très ciblé. Mm-hmm. Et ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas appelée à faire d'autres choses, parce que souvent, ils viennent le cœur sur la main. On a des exemples avec monsieur ici, François, pour dire, ben moi, je suis arrivée, puis j'étais prêt à faire n'importe quoi. Puis finalement, au fil du temps, je me suis spécialisée, puis j'ai appris à coacher les coachs, finalement. Donc, c'est un peu ce qui arrive. Donc oui, on peut embrasser large quand on demande des bénévoles, mais plus on est précis dans nos demandes, plus on risque de trouver les bonnes personnes pour nous accompagner.
Louis?
C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le cas d'une petite région, d'une petite localité, c'est plutôt être attentif à ceux qui sont intéressés à participer. Donc, c'est pas nécessairement dire on a cette tâche-là à faire dans notre organisation, c'est est-ce que tu es intéressé à développer chez la personne une espèce de passion en disant oui, j'aime ça participer à ces activités-là, oui, je voudrais aller plus loin avec le groupe. Alors, c'est un petit peu différent au niveau du recrutement.
Si je fais juste de la suite avec ce que vous dites, ça oblige l'organisation à s'adapter aux bénévoles avec qui il fait affaire.
Exactement.
Et c'est énorme.
Exactement.
Parce que en plus de faire un projet, on en parlait tout à l'heure ensemble.
Nous, on a une,
c'est complexe, là.
On a une règle d'or. Nous, en tout cas, c'est celle qu'on a, c'est que tu viens faire du bénévolat chez nous, tu veux t'intégrer, tu n'as pas d'obligation. Tu fais ce qui te plaît. C'est ça qui doit t'animer.
Ah, c'est sûr.
Et ensuite, on fonctionne sous le mode comme d'une espèce de fleur et de pétale. Ça veut dire que les gens s'intègrent au groupe, s'intègre au conseil ou à l'organisation, puis décide par la suite, moi, j'aimerais partir ce volet-là. Vas-y. Nous, on va te supporter. Mais tu es entièrement responsable de ce pétale-là, de cette fleur-là. Mmh. Donc, ça donne tout. Si les gens ne veulent pas participer, mais veulent soutenir un exemple pendant un événement, soutenir au niveau technique, soutenir au niveau service, ça fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas cette pression-là de « Oh, je dois faire ci, je dois faire ça. Je vais le faire parce que j'ai la passion. » C'est pas la première fois que je le dis. La passion, c'est ça qui donne un chemin à tous dans nos activités qu'on a à faire.
Yvan?
Ce à quoi ça me fait penser, ce dont Louis nous parle, c'est que on assiste à un phénomène d'uniformisation depuis plusieurs décennies, là, les réseaux au plan de la culture, tout ça. Moi, je suis très heureux, j'ai fait le tour du Québec. J'ai fait le tour du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard, etc. J'ai fait toutes les provinces maritimes. Puis le Québec, c'est immense. Et donc, on a des réalités régionales et locales multiples.
Ouais.
Donc, il faut absolument que ceux et celles qui espèrent faire carrière en gestion de loisirs tiennent compte de ça, que malgré tous les principes qu'on apprend, et puis je sais, je suis un universitaire moi-même, là, mais lorsqu'on sort de l'établissement et qu'on arrive les deux pieds dans le sable ou sur la pelouse ou parmi les fleurs, ben, il faut s'adapter au milieu local parce que si on veut le stimuler, ben, il faut le reconnaître.
Ouais.
Puis après ça, ben, en le reconnaissant, là, on peut comme l'inviter à vérifier s'il y aurait des meilleures pratiques. Potentiellement. Mais si on tente d'imposer les meilleures pratiques, ou en tout cas ce qu'on considère comme des meilleures pratiques, avant de reconnaître nos joueurs, nos joueuses, ben on se trompe. On se met le doigt dans l'œil. Il ne faut surtout pas arriver là comme le porteur de la connaissance scientifique absolue. Puis moi qui suis formé en travail social, c'était la même chose qu'on apprenait. Nous sommes des co-créateurs, donc les gens doivent apprendre à travailler ensemble.
Mais ça nécessite peut-être aussi d'avoir un certain bassin, parce que quand on est rendu à sélectionner le bénévole pour dire qu'est-ce que toi tu souhaites avoir, c'est qu'il y a une certaine... on est moins réactif, on est très proactif, donc cette proactivité-là, je pense qu'il est important à avoir dans votre réponse. François?
Je reconnais parmi mes bénévoles tout ce que vous avez dit, c'est sûr. Mais il y a deux choses. Les gens, au départ, ne s'impliqueront pas, à moins d'aller chercher, parce que quelqu'un connaît un petit peu ses expériences, tout ça. Tu sais, comme quand on organise une compétition, bien, il y a le montage puis le démontage de la piscine, les tremplins, puis tout ça, puis les bains, puis ça prend une équipe pour ça. Les commanditaires, ça prend une équipe qui s'occupe de ça. On reçoit des invités. Moi, à ma piscine, quand j'organise une compétition, ça va être 425 nageurs. Ça prend 425 parents qui sont en quelque part dans ça. Ça fait du monde. Puis il y a les coachs, les entraîneurs. Puis on reçoit de la visite. On les choisit de même, mais ils sont toujours, au départ, prudents dans leur implication. Il y a un mot qui efface à peu près tous les essais que tu vas essayer de recruter ce bénévole-là dans ton équipe, c'est conseil d'administration. Uh-huh. Ça, ça marche pas. C'est comme, non, je pourrais pas décider ça, puis je peux pas rien faire au conseil d'administration. Moi, je suis un simple travailleur d'une usine, puis tout ça, ben je te donnerai pas un job de président ni de comptable, tu sais, puis c'est pas ça, mais c'est un mot-là. Il y a des gens qu'on sait, c'est un comptable agréé qui va s'occuper de la trésorerie, là. Fait que lui, il va travailler une heure par semaine, puis il en a plein. Mais si l'autre personne... Il fallait qu'elle apprenne tout ce qu'il faut faire comme trésorier, ben, on aura pour la semaine au complet, puis pendant 6 mois pour régler ces choses. Fait que ça, c'est, au départ, c'est ça. Mais il faut aller les chercher, puis dans leur discipline, dans ce qu'ils veulent faire en tant que tel.
Mais justement, François, j'aimerais ça vous entendre par rapport aux défis de taille, mais notamment par rapport à la gestion. Donc, c'est quoi les défis majeurs qui nous attendent pour la gestion des bénévoles? Catherine, toi, de ton côté?
En fait, je pense que l'organisation doit mettre en lumière c'est quoi son pouvoir d'attractivité, ce qui va attirer le bénévole. Que ce soit en gouvernance, justement, conseil d'administration sont essentiels. J'étais avec vous, M. Louis, là, puis les autres aussi. Là. C'est vraiment l'essence de l'organisation. Faut être capable de recruter les bonnes personnes, puis être capable de pas nécessairement leur vendre, parce qu'on n'est pas dans une vente pour aller chercher des commanditaires, mais d'aller trouver qu'est-ce que ça peut apporter à la personne. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter aussi de son côté, puis en quoi ça peut faire du sens dans tout ça. Donc, c'est vraiment un beau défi, parce que des fois, à force de faire du recrutement, on oublie pourquoi on le faisait, puis pourquoi l'organisation, finalement, a besoin tant que ça d'une personne de tel type pour faire, par exemple, partie du conseil d'administration ou pour faire un bénévolat type. Donc, je pense que les organisations sont créatives, sont très, très... Ils rebondissent vite, ils sont habitués à réagir rapidement. On se fait couper des subventions, on se retourne de bord, on fait des projets. Bon, vous connaissez, on recommencera pas la roue. Mais dans un contexte comme ça, il faut aussi qu'ils prennent ce réflexe-là de rester actifs dans leur réflexion et dans la projection dans l'avenir, de comment ils veulent attirer du monde, comment ils veulent prévoir la relève du bénévolat.
C'est comme tu dis, là, c'est ça, il faut les accompagner. Fait que moi, j'ai pris l'habitude depuis toutes mes années, depuis que je m'implique dans le sport ou dans différentes activités bénévoles, j'ai pris l'habitude que quand il y a un nouveau qui rentre, ben je vais l'accompagner. Là. C'est le petit parent là, qui commence sa première année que son nageur nage, là, puis là, il s'en va dans la piscine, c'est sa première compétition, puis elle a décidé de s'impliquer comme chronométreur. Ben je vais aller la voir au moins 4 fois si ça se passe bien, si ça se déroule bien. Puis, tu sais, faut les soutenir parce qu'ils ne savent pas à quoi ils s'attendent.
En fait, le lien que vous créez avec cette personne-là va lui donner envie de revenir. Juste ça.
C'est là.
C'est ça.
C'est là. C'est là. C'est carrément là.
Je pense effectivement aussi que la nécessité du bénévole pour le bénévole. En fait, c'est ce que c'est l'essence aussi de votre réponse.
C'est ça. Puis ils sont rares.
Mmh. Effectivement, oui. Donc, Louis, puis par la suite, Yvan.
François et Catherine, là, vous avez exactement ciblé un point, c'est que les gens, dans des activités de culture, il y a des gens qui assistent à ces événements-là. Il y en a qui sont réguliers. T'établis des relations, t'établis des contacts. Puis en fait, les personnes qui sont responsables de ces organismes-là doivent avoir les yeux ouverts et faire un peu comme du repêchage en avance, parce que ça a été remarqué aussi, c'est qu'on a notre façon, avant les bénévoles, comme toi, tu es une organisme, Catherine, qui s'occupe des bénévoles, qui recrute les bénévoles, tandis que nous, on attend les bénévoles ou on les recrute à petite échelle. Donc, c'est une démarche à long terme. C'est pas du maraudage. Des fois, ça dépend, on peut aller en chercher à d'autres organismes, mais c'est vraiment une recherche que l'on fait. C'est un ciblage, puis c'est aussi une affinité. Parce que souvent, on cherche du monde, mais il faut que la personne soit au courant c'est quoi les visions, puis c'est quoi les valeurs de l'organisation. Parce que tu peux avoir un bénévole qui est intéressé à s'impliquer, mais qui n'a pas la même vision valeur. Il faut que les gens adhèrent à cette vision-là, à cette valeur-là. Mais ça, il faut que tu parles, comme tu fais. Tu t'en occupes. Ils participent à un événement. Puis ça, ça leur sortit dans certains rapports de Loisirs Sport Outaouais, puis ils en ont fait des ateliers là-dessus. Dans le sens qu'il faut que t'es bénévole avant, OK, merci, bonjour, on va te donner un prix. C'était l'événement à vélo, c'était l'événement de... Mais c'est plus ça. Mm-hmm. Maintenant, il faut que tu leur emmènes des avantages. Il faut que tu leur emmènes un endroit, il faut que t'en prennes soin. Il faut quasiment que, OK, il y a un repas, il y a un petit verre. Il faut que tu soulignes leur effort. Il faut que tu les dorlotes.
Mais j'ai comme envie juste de pour sauter ce que vous dites, oui, juste pour rajouter
pas au milieu,
que...
là, des micros.
Non, c'est ça. Juste en arrière du mien, pour dire, en fait, le bénévole qui s'implique, là, il y a une raison. Puis c'est être capable de la trouver, cette raison-là. Puis si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas du temps avec lui, je pourrais mettre quelqu'un à l'accueil pour s'occuper d'un événement et donner son petit paquet cadeau. Il reviendra peut-être jamais, parce que j'ai peut-être pas parlé. Finalement, il voulait faire la queue, mais il était intéressé à savoir comment ça marchait, le pointage, puis le coach.
Catherine, je vais sauter par-dessus le micro.
Puis par la suite, je vais laisser Yvan continuer.
Mais ça, je pense que c'est important. C'est que c'est comme la relève. C'est comme dans n'importe quoi, comme dans une entreprise privée, en entreprise publique. S'occuper de la relève, c'est tu t'en occupes au tout début de ton organisation, quand tu lances une OSBL, tout ça, c'est une des choses qui doit embarquer dans ton agenda. C'est quoi la succession?
À tous
les jours. C'est pas à la fin en disant « Ah, faut trouver du monde! » Bon, ben voilà, ça ferme. Les organismes tiennent pas. Alors, c'est une question de culture. Hein? Si on parle de foresterie, ben c'est comme jardiner la forêt. Ben là, il faut jardiner une OSBL.
C'est un travail. À temps plein de prendre soin de ses bénévoles. Les fidéliser.
Oui, c'est ça.
Est-ce que pendant la pandémie, quand tout a été arrêté, est-ce que vous avez continué à parler à vos bénévoles? Est-ce que vous avez gardé un contact avec eux? Mm-hmm. L'idée, c'est pas de se taper sa tête aujourd'hui si vous l'avez pas fait, mais c'est sûr que ça a un impact sur leur investissement aujourd'hui. Vous l'avez dit tantôt, il y en a une gang qui sont partis parce qu'ils ont fait d'autres choses. S'ils voulaient s'investir dans une cause, puis finalement, la cause a plus besoin d'eux, ça se peut qu'ils trouvent autre chose. Puis c'est correct, en fait. Mais l'organisation doit garder ça en tête, que quand il y a des quand il y a des arrêts, que ce soit des vacances, peu importe, pandémie, mettons qu'on en aurait un autre, est-ce qu'on garde contact avec nos bénévoles, puis on parlait quasiment d'un travail à temps plein? Je sais pas, ça dépend toujours des organisations, mais au moins de garder une récurrence assez stable pour fidéliser les bénévoles qui se sentent encore interpellés, qu'on pense à lui, on parlait de la personne qui a le besoin de se sentir utile, de se sentir présent. Donc, c'est vraiment des techniques à maintenir. Puis là, j'ai envie de jeter un pavé.
Oh, allons-y. Est-ce un effet sonore qu'on peut ajouter quelque part?
Mais un pavé, c'est pas comme une personne. Un pavé, c'est lourd.
Ça va être lourd. Est-ce que des organisations ont déjà pensé à travailler ensemble dans le recrutement de bénévoles?
Bien, il y a une affaire qu'à Drummondville, je suis très fier que ça ait été fait. Ils ont créé un organisme qui gère tout. Ça s'appelle le Drummondville Olympique. Puis l'ensemble des groupes, comme les requins ou le baseball Drummond ou le hockey, bien, c'est tout des OSBL. Puis ce qui est difficile à tenir quand les gens changent souvent sur un conseil d'administration, Bien, c'est le secrétariat, les conditions légales de laisser l'OSBL en ligne, il y a des formulaires à remplir, tout ça. Mm. Mais là, le Drummondville olympique, il y a toutes les OSBL, il y a un agenda, puis il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Puis pour la comptabilité aussi, les payes des entraîneurs-chefs, des entraîneurs adjoints, tout ce qui concerne l'argent, bien, on fait une compétition, on reçoit des sous, bien, on va porter l'enveloppe là, ça va être rentré dans nos revenus, mais c'est eux autres qui gèrent ça. Nous autres, on a géré les opérations en tant que telles pour le faire. Mais quand tu sais que les payes se font, les contributions aux différents régimes d'assurance, tout ça, bien, y a quelqu'un qui a un œil là-dessus, bien, c'est pas pire. Puis en regroupant tous les organismes, bien, les conditions, les avantages sociaux reliés au poste d'entraîneur, qui travaille de 6 heures le matin à 9 heures, ou de 10 heures à midi, puis après ça, ça va de 2 heures jusqu'à 6 heures et demie le soir. Puis deux fins de semaine par mois, ils sont partis avec les jeunes en compétition. Bien, à un moment donné, la paye, il faut qu'elle rentre tout seul. Puis le bénévole qui dit que j'aurai pas le temps de faire une paye, bien, c'est le fun quand il s'est fait une affaire. Puis il n'oublie pas les dates, il envoie les formulaires à faire signer en temps et lieu.
C'est génial.
Parle le temps.
Moi, j'ai ça. Le goût de vous apporter ailleurs parce qu'on a ciblé tantôt la gouvernance. On reste ici assis, mais je vous amène quand même ailleurs. On a ciblé tantôt la gouvernance. Mm-hmm. Je vous parlais, dans le fond, dans ma prémisse, comme quoi. Il y avait possiblement une pénurie au niveau de la main-d'œuvre qu'on sent. Il y a toujours les mêmes et patati patata. Est-ce que, au niveau de la gouvernance, quand on sait qu'il faut s'impliquer sur une base, ben, c'est même jusqu'à 2 ans, mais on va dire jusqu'à 1 an, est-ce que vous sentez que s'impliquer sur plus d'un mois, sur plus de quelques mois ou sur plus d'une année, c'est quelque chose qui va être difficile? Comment est-ce que vous voyez la gouvernance des organismes?
La gouvernance, c'est quelque chose qui est extrêmement ardu.
Qu'est-ce qui est ardu, le recrutement ou la gouvernance?
La gouvernance en tant que telle, juste l'administration. Moi, je suis sur deux groupes. Il n'y a pas juste Far West, il y a aussi la coopérative de solidarité plein air aventure idéale. Donc, c'est l'administration, trouver les fonds, trouver les commanditaires, la reddition de comptes, la relation publique, comment être cohérent là-dedans, là. Des fois, tu peux en perdre ton latin. Puis c'est des projets qui, minimum, c'est un an et demi, 2 ans. Parce que être dans la gouvernance, c'est aussi connaître ton milieu, connaître ta structure, connaître tes intervenants. C'est lourd. Ça peut être très, très lourd. Mais lorsque c'est bien maîtrisé, bien là, c'est comme des petits oiseaux. Tu voles, puis tu es capable d'aller dans le ciel, puis d'aller... d'aller picoter là, puis picocher là.
Donc, Catherine, puis par la suite, François, j'aimerais juste t'entendre, en fait, par rapport à la gouvernance, parce que vous devez, j'imagine, former par rapport à la gouvernance.
Oui, en fait, la gouvernance, effectivement, c'est un nerf de la guerre. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont de la difficulté à recruter suffisamment, de remplir leur conseil d'administration. Ils sont peut-être des fois minimal, comme 3-4 personnes, alors qu'il y aurait 8 places au conseil. Et donc, ils vont faire appel à nous. Il y a plein de facteurs à regarder. Les bonnes personnes qui veulent s'investir, ils sont souvent là, mais souvent, c'est peut-être pas les bonnes personnes qui devraient être sur un CA, malheureusement, parce que peut-être qu'ils n'ont pas les compétences ou les qualités ou peut-être pas la disponibilité qu'il fallait. Donc oui, ça peut être sur 2 ans, mais nous, souvent, on va les approcher en disant « c'est une rencontre de 2 à 3 heures ». 6 fois par année, pendant 2 ans,
moins,
ça
en
a
oui.
moins pire. Mais c'est clair que pour faire du bon recrutement, on a comme 2 observations. Si les personnes ne sont pas formées, s'ils ne sont pas aidés dans leur rôle, même s'ils sont juste administrateurs, s'ils n'ont pas de fonction de dirigeant, ils sont quand même imputables et donc ils devraient savoir dans quoi ils s'embarquent. Donc, un minimum de formation. C'est sûr que les centres d'action bénévole peuvent offrir ce genre de choses-là. Il y a d'autres organisations aussi.
CDR.
Oui, c'est ça. Donc, d'aller chercher peut-être un minimum de formation pour savoir un peu dans quoi vous vous embarquez, de comprendre, de jaser avec peut-être quelqu'un du CA qui est déjà impliqué pour comprendre c'est quoi les implications. Puis souvent, ça dédramatise beaucoup. Là. C'est comme, c'est pas si pire finalement, mm-hmm. parce qu'on voit ça quand même assez gros. Et de prévoir le recrutement, on en a parlé tout à l'heure, souvent... Quand c'est l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, l'organisation se réveille, puis là, ils nous appellent. Là, il nous manque 4 membres de conseil d'administration. Je dis, OK, Mais ça fait combien de temps, vous le savez? Parce que je comprends, ça urge, je comprends que ça peut mener l'organisation à sa perte, mais vous étiez où il y a 6 mois pour vous faire un mini-comité, peut-être, puis faire un comité de recrutement, puis essayer d'aller peut-être dans des... cibler des gens que vous voulez. Est-ce que vous voulez des gens d'affaires? Est-ce que vous voulez des gens de la communauté, des bénévoles? Est-ce que vous voulez des clients? Est-ce que... qui vous voulez dans votre CA, puis allez les chercher un par un avec un contact ciblé. Habituellement, quelqu'un va s'impliquer s'il a été recruté par un membre du CA. Il va dire, ah oui, je vais essayer. Je vais le faire au moins une fois, puis je verrai après tout ça. Donc, il y a ça. Après ça, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui sortent de l'école, puis nous, on fait beaucoup de publicité auprès d'eux pour se impliquer. Donc, c'est une belle façon de connaître votre société, la communauté.
Absolument.
Ils arrivent sur un CA avec des gens qui sont là depuis des années. Et là, il y a un clash monumental aussi. Donc, comment accompagner ces jeunes-là aussi? Comment faire en sorte que peut-être que les anciens, il faut qu'ils fassent de la place aux nouveaux, qu'il y ait de l'ouverture des fois pour des nouvelles idées, même si vous l'avez déjà essayé il y a 15 ans et que ça ne marchait pas, peut-être que ça pourrait remarcher. Donc, c'est des choses qu'on voit souvent, des petits conflits de génération. Et les anciens aussi qui disent, mais ça marchait de même avant, fait que ça va marcher de même encore. Peut-être que ça l'a évolué aussi. Donc, on parle de créativité, d'adaptation, d'être capable d'aller chercher les gens de tous les âges, puis de les impliquer, puis de leur apprendre un peu, de trouver de la formation pour les supporter là-dedans.
Oui, puis c'est une forme de reconnaissance de dire, je crois que tu serais... bon, dans ce poste, je crois que ce serait quelque chose que tu pourrais faire. Donc, d'être proactif et non réactif par rapport à une situation. Donc, on y va avec François, puis par la suite, Yvan.
Je ferais du millage encore un petit peu sur ce que tu dis. C'est nous autres, il y avait trop de roulement au niveau du CA en tant que tel. Fait qu'on, le CA a décidé d'avoir la moitié des membres qui vont être changés à chaque année.
C'est ça.
Fait que là, ça aide en partant. Comme le Drummondville Olympique, notre organisme qui chapeaute, qui fait la gestion, mettons, légale de tous les organismes, les OSBL, bien, il y a une partie de ça qui n'est pas faite par le CA, parce que le suivi, il se fait tout seul, puis tu sais dans quoi tu t'embarques. Puis comme tu disais, moi, si j'invite quelqu'un au CA, bien, d'habitude, je l'accompagnais au premier CA qu'elle allait. Puis je lui demandais à la fin, bien, t'as-tu aimé ça? T'as-tu trouvé? Puis des fois, il trouvait même une place pour... qu'est-ce qu'on pense, là? Parce que tu commences, là, toi, dans le club, bien... t'as peut-être une vision ou t'as vu quelque chose que nous autres, on voit pas parce qu'on est à un autre niveau en tant que tel. Fait que il y a ça, ce côté-là. Puis l'organisme aussi, tous les nouveaux, parce qu'il y en a plusieurs au SBL qui ont décidé de fonctionner comme ça, parce que ça garde un petit peu l'histoire du CA d'une année à l'autre. Ça, c'est, on a fait telle compétition l'année passée, est-ce qu'on la refait cette année? Oui, ce serait le fun, mais je rajouterais telle affaire. Puis là, ben, on parle plus d'opérations que de gestion légale. Là, j'ai oublié de faire signer une feuille, puis tout le tralala. Puis, tous les nouveaux membres, via le Drummondville Olympique, ben, sont obligés de suivre une formation sur l'éthique, puis sur la gouvernance.
Génial.
En tant que telle. Puis Sport Québec a exigé ça depuis 6-7 ans, il me semble. Là. Fait que c'est comme obligatoire. Puis là, ben, ils vont là, ils savent le rôle qu'ils vont jouer.
C'est un exemple.
Ben oui, non, c'est super, effectivement, c'est super intéressant. Puis on encourage les personnes qui sont dans les CA de regarder, parce que ce que j'entends beaucoup aussi, c'est la formation. Des fois, la formation peut être une forme de reconnaissance aussi, de donner des formations à nos bénévoles. Yvan.
Oui, j'allais rajouter que, bon, avant d'arriver à la gouvernance, c'est ce qui se passe en amont avant, là, autrement dit. Ça me fait penser à l'exemple Mascoutin, l'exemple à Saint-Hyacinthe, c'est que la polyvalente Hyacinthe-de-l'Homme, le Collège Saint-Maurice puis l'École secondaire Saint-Joseph offrent tous les trois le programme international. Alors, de la première à la cinquième secondaire, tous les étudiants inscrits au programme international doivent faire du service communautaire. C'est des élèves qui sont réveillés, là. Fait que si les organismes qui font l'accueil de ces jeunes-là sont suffisamment allumés pour leur dire, hey, peut-être que t'aimerais ça devenir éventuellement membre administrateur. Écoute, c'est incroyable. Moi, je trouve que les organismes communautaires à Saint-Hyacinthe sont gâtés parce qu'on a trois institutions d'enseignement secondaire qui fournissent des bénévoles. Puis les jeunes aiment ça. T'sais, moi, mes deux fils ont fait ce programme-là, puis et ça les a amenés ailleurs. Ça a élargi leur conscience aussi, là. Puis ça fait des beaux jeunes qui sont déjà comme plus citoyens que ceux qui font pas de bénévolat. Tu sais, moi, je t'écoutais, François, puis je me disais, mon Dieu, j'ai été plus longtemps bénévole au Centre des arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe que n'importe quel autre emploi de toute ma vie. J'ai été intervenant scolaire 12 ans, mais j'ai été membre du CA pendant 15 ans. Après ça, j'ai fait d'autres choses. Mais c'est fascinant. Je pensais pas que j'étais un bénévole. Ben oui, j'en suis un, tabarnouche. Puis j'étais juste un membre administrateur. Puis j'ai eu du fun. On s'est posé des bonnes questions.
Puis juste avant de donner la parole à François, l'aspect aussi qui est intéressant là-dedans, c'est est-ce qu'il y aurait pas une forme d'obligation qui serait intéressante à aller voir au niveau du réseau scolaire pour venir partager c'est quoi une expérience citoyenne? C'est quoi qu'est-ce que ça fait de m'impliquer? Il y a des programmes à Saint-Hyacinthe, mais je pense que ce serait bénéfique d'instaurer ce genre de programme-là partout, en fait, dans les réseaux scolaires, parce que des fois, juste de s'impliquer, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas d'exemple concret, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. François?
On a fait appel, le club, là, on fait appel à chaque année aux jeunes sur le programme international, là, pour qu'ils viennent faire du bénévolat, parce qu'on a besoin. On a besoin. Fait que c'est sûr, nous autres, ça fait partie de la liste des gens à contacter, en partant. L'autre chose sur laquelle je veux revenir un petit peu en arrière, c'est dans mon ancienne vie, avant d'être retraité, je t'enseignais la gestion. Puis moi, il y avait une session pendant laquelle je donnais un cours qui s'appelle gestion de ressources humaines. Fait que tout le côté de gestion des équipes de travail, puis donner des conditions pour le faire, bien là, je les obligeais, mes étudiants, pendant la session, d'aller porter leur nom dans un OSBL pour être sur le conseil d'administration. J'ai dit, là, vous autres, vous connaissez un peu la comptabilité, vous connaissez un peu les budgets, vous connaissez un peu où vous êtes rendu dans notre parcours, là, dans le programme. Ben, il y a certaines bases que vous avez, qu'il y a des gens qui sont sur ces CA-là qui n'ont aucune idée de ce que ça a l'air. Mais je pense que vous pourriez être une belle ressource là, là-dessus. Puis en les obligeant à me ramener une lettre du président qui disait qu'il l'accueillait tout le bas vert, là, puis des fois, il y en a qui ont de la difficulté, bien... Je connais ça du monde qui connaît du monde. Là.
Ouais.
Ben, c'est une forme d'école, effectivement, c'est le bénévolat. Ouais.
C'est tellement, on tombe tellement pile sur un élément important. On parle de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut insuffler auprès de la jeunesse une formation au niveau de leur implication sociale? Mm-hmm. On voit ça, c'est merveilleux quand j'entends du bord de François ce qu'il dit, puis ce que Yvan dit au niveau de son implication qu'il y a eu au niveau social, puis qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'éducation. Puis tu vois, si on parle d'un exemple local, parce que moi c'est local, je peux pas parler dans les autres régions, mais à un moment donné, il y avait la reconnaissance des bénévoles. C'est la MRC qui honorait...
Une soirée, un événement.
Exactement, OK. Il y avait peut-être une centaine de personnes, il y avait peut-être, tu sais, 90 bénévoles qui ont été honorés. Puis ce qui était incroyable, c'était de voir l'âge qui était très significatif. Donc, ça partait de 55, 60 à 95 ans. Là, je parlais à mon fils qui a 25 ans, OK, qui avait été honoré comme bénévole pour la coopérative. Je me disais, mais où sont les jeunes?
Ouais.
Où sont les jeunes? Mais là, ça veut dire que nous, dans notre région, il y a urgence. Mon Dieu, c'est une urgence. C'est une urgence qu'il y ait une culture qui soit insufflée auprès de la jeunesse. Où sont-ils? Ils ont des enfants, ils ont des familles.
Hein? Ils sont là.
Catherine, justement, par rapport à ça,
ils sont
les jeunes.
Là.
Ils sont là.
Mais dis-moi là.
Ils sont juste pas dans les organismes, les organisations où on est nécessairement. Okay. Ils sont beaucoup plus dans l'événementiel. Ils vont faire plus du bénévolat ponctuel. Ils vont s'impliquer un peu plus dans des causes sociales, peut-être plus du militantisme, peut-être plus qui vont porter leurs valeurs, que ce soit vegan, que ce soit le transport, l'écolo, l'environnement. Ils vont être beaucoup plus là-dedans. Dans des événements de ce genre-là, ou sportifs, parce qu'on en retrouve beaucoup, des jeunes garçons souvent, dans le sport, mais des jeunes filles aussi, selon les loisirs, qui vont s'impliquer pour une fin de semaine de compétition, qui vont donner du soutien, qui vont coacher des plus jeunes. Des jeunes de l'université qui vont aider des jeunes secondaires. On en voit beaucoup. Mais ils ne passent pas par nos réseaux, je dirais, habituels, communautaires, de ce qu'on connaît. Moi, c'est ce que j'observe sur le terrain.
Merci, Catherine. Maintenant, je pense qu'on peut très bien savoir que les jeunes sont là. On sait où les trouver, justement. J'ai une dernière petite question pour vous autres. Une dernière petite question pour la route. Qu'est-ce que le bénévole amène aux loisirs culturels et vice-versa? Louis?
Des opportunités, des nouvelles rencontres, ça donne un sens à l'existence de où je suis présentement. Ça peut même changer leur parcours de leur vie en disant « Non, j'ai plus envie de déménager parce qu'il se fait, il y a une offre culturelle. Waouh, il y a des gens intéressants. Tiens, OK. C'est un sens à la vie. C'est ça, ouais. C'est ça que ça donne.
Ouais. » Je vais y aller avec Catherine, puis Yvan par la suite, puis on va finir avec François.
Oui.
Super.
Moi, je dirais que l'organisation va grandir avec le bénévole qui va s'impliquer. Le bénévole va arriver avec des idées, va arriver avec son bagage, son expérience de vie, ou même s'ils sont jeunes, sa vitalité à la limite, son dynamisme, sa volonté, sa motivation qui va motiver les autres. Qu'il y ait des employés ou qu'il y ait d'autres bénévoles, ça va avoir un effet comme un peu d'une vague sur les autres. Donc, l'organisation, de par le bénévole, va évoluer. Je dis grandir, ça veut pas dire qu'il va grossir en termes
d'offres.
Donc, mais en termes de évoluer dans le temps avec les besoins qui vont, parce que tout évolue, tout change. Et le bénévole aussi va évoluer. Il va grandir à sa façon. Il va recevoir énormément. Il va souvent un bénévole qui donne va me dire, ben, je reçois bien plus que je donne. Il me semble que j'ai rien fait. Mais je me sens le cœur bien rempli de toutes ces bonnes actions de par ce que j'ai offert. Puis de parce que les gens que j'ai côtoyés derrière ça. La question est bonne, est très philosophique, mais en fait, c'est que ça permet à tous d'évoluer et donc à la société de continuer d'évoluer.
Mmh. Yvan?
Ben moi, j'ai des exemples tellement concrets, tu vas être content.
J'aime ça, moi, c'est le pratico-pratique, j'adore.
Ben, c'est deux femmes que je connais qui ont vécu à peu près la même chose, mais dans deux localités différentes. Une connaît le suicide de son frère et vit une détresse psychologique. L'autre vit une détresse psychologique parce qu'elle se sent en colère contre sa vie. Ces deux femmes-là, chacune dans leur localité, deviennent écoutantes pour Suicide Action Montréal, l'autre pour Telle Aide Saint-Hyacinthe. Et puis, elles retrouvent leur équilibre. Puis vont après ça vers autre chose. Donc, elles ont vécu une souffrance. Elles se sont offertes, elles ont eu une formation, évidemment, pour devenir écoutantes au téléphone, mais retrouvent un équilibre, relativisent leur souffrance sans la dénigrer, acquièrent des nouveaux outils, vont de l'avant. Pendant ce temps-là, rendent service à des gens qui sont en détresse psychologique, rendent service à l'organisme, comme le disait Catherine. Puis moi, de mon côté, tantôt, je parlais des variétés canadiennes. Ça fait longtemps que ça existe, cette chorale-là, Saint-Hyacinthe, ce groupe vocal. Bien, quand j'étais tout petit, ma mère, elle encourageait les variétés canadiennes. Donc, elle a acheté un album des variétés. C'était des 33 tours à l'époque, en vinyle. Puis un jour, moi, je sais pas quel âge j'avais. Peut-être j'avais 9 ans ou 10 ans, mais je suis tombé sur le 33 tours des variétés canadiennes. Je l'ai mis sur le tourne-disque, puis j'ai entendu Jack Monoloy de Gilles Vigneault. Et je sais aujourd'hui, parce que j'en ai fait une reprise en 1990 à l'époque de la crise d'Oka là, avec les Autochtones, je sais que ce disque... Écoute, je vois encore la pochette devant mes yeux, là, puis j'ai 61 ans presque. Là. Je sais que ça a été un événement charnière, puis ça dépendait de l'intérêt que ma mère avait pour une de ses voisines qui chantait pour un groupe culturel qui existe encore aujourd'hui, mais qui a changé de nom pour s'adapter à la nécessité là, d'attirer... Tu sais, c'est extraordinaire.
Ça a changé, en fait, oui. Ça a changé votre vie, en fait.
Oui, moi, ça a changé ma vie.
François?
Moi, autant au niveau professionnel, ça m'a servi qu'au niveau personnel. Étant un enseignant en gestion qui donnait des cours de gestion de ressources humaines, gestion de projet, gestion des approvisionnements, gestion de la qualité, et tous les cours à problème, là, toutes les entreprises vivent, là, c'était mes cours que je donnais régulièrement. Mais, t'sais, j'enseigne la gestion de projet, mais je n'ai jamais géré un d'une certaine envergure. Fait que c'est quoi gérer du monde? Ben là, moi, c'est quoi gérer du monde? Ben, quand j'organisais une compétition avec 400 nageurs, ben j'ai à peu près 100 bénévoles à m'occuper. Bien là, c'est tout. Il y a des chefs d'équipe. Mais tu sais, il faut que j'amène tout ce monde-là à travailler dans le même sens puis qu'ils ne soient pas tous rendus. Les madames du lunch, il ne faut pas qu'ils se restent accrochés sur le bord de la piscine pendant que le nageur nage, là, parce que la collation n'arrivera pas dans une demi-heure. Là, puis il faut qu'elle arrive dans une demi-heure parce qu'après ça, ils n'auront pas le temps de la manger. Là. Fait que, autant au niveau personnel, moi, j'ai pu, à travers les activités bénévoles que j'ai faites, trouver des exemples puis rendre mes cours plus concrets. Alors, si vous essayez ça, ça amène des problèmes. Ça, je vous le dis tout de suite. c'est comme, faites pas ça.
Mais ça amène du concret.
Oui, ça amène du concret. Puis en même temps, tu jases de choses bien terre à terre, comme vous l'avez fait, là, tout le monde. Là. Ça amène des affaires bien terre à terre que le jeune, quand il va gérer un projet, il y avait un projet à gérer, ça prenait du monde, des bénévoles, du financement, puis tout ça, mais... Puis là, il fallait qu'ils le fassent. Puis des fois, moi, je les accompagnais là-dedans. J'étais plus un coach pour le projet qu'un enseignant qui notait des notes en tant que tel. Il faut que ça marche, ton projet. Il faut pas que ça marche, mais il faut que tu aimes ça assez pour que l'autre qui ne connaît rien à ta patente, ait le goût d'embarquer avec toi. Là.
Exactement.
C'est ça. Ouais. Puis tu arrives là-dessus. Fait que moi, autant au niveau personnel que professionnel, j'ai enseigné 30 ans, j'ai pas dirigé des entreprises bien, bien longtemps. Là. Mais les organisations, on a organisé une compétition qui fait un revenu d'à peu près 56 000 piastres, là, de nageurs. Là. C'est juste le paiement des nageurs, mais là, il faut que tu gères, il faut qu'il en reste au bout de la compétition. Là.
Donc, le message est lancé aux enseignants. Je pense qu'on a un beau modèle
oui,
aussi devant
dirais,
nous.
Je dirais à mon collègue qui a juste des bénévoles de 55 ans et plus, là, va chaler des profs de cégep en gestion. Puis ils vont t'en envoyer quelques-uns là, pour t'aider. Là, pour faire. Puis même si tu ne sais pas quoi leur faire, mais tu sais qu'il y a un problème au niveau d'une équipe de travail, bien, prends un étudiant, mène-le là. Lui, il a une référence. Il y a son prof, là, qui est un spécialiste du domaine, qui a étudié, qui connaît la partie théorique. Moi, je connaissais toute la partie théorique. J'avais peu de pratique quand j'ai commencé à travailler. Mais au fil du temps, au fil des implications que j'ai faites, bien, j'ai développé cette expertise-là, qui est maintenant bien sollicitée à travers ma région, à travers la province, puis même à travers le Canada. Là.
C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Nous souhaitons remercier nos invités Yvan Pion, Catherine Montour, François Sylvain et Louis Harvey. On vous remercie aussi de votre écoute et on vous invite à venir écouter le prochain épisode qui portera sur le loisir culturel dans les écoles. À la prochaine! Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.